VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel du vendredi 31 janvier 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. La CEDEAO demande une vérification des procès-verbaux du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau avant le 7 février plutôt. Au Nigeria, une fille a commis un attentat suicide tuant trois garçons d'une école coranique. Ici aux États-Unis, le Sénat, contrôlé par les Républicains, pourrait acquitter dès ce soir le président Donald Trump dans le procès en destitution le visant. La Grande-Bretagne sort officiellement de l'Union européenne aujourd'hui, 3 ans après un référendum sur le Brexit.
Tant que citoyen pour aller au Royaume-Uni ou pour les entreprises, là, il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour avoir les effets concrets du Brexit.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a demandé une vérification des procès-verbaux du second tour de la présidentielle d'ici le 7 février en Guinée-Bissau. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Un mois après le second tour de la présidentielle, l'issue demeure disputée entre Umaru Sissoko Ambalo, issu de l'opposition, et Domingos Simoes Pereira, le candidat du PAIGC, parti qui domine la vie politique depuis des décennies. La commission électorale affirme que M. Ambalo l'a emporté avec 53,55% des voix et que ses résultats sont définitifs. La Cour suprême, saisie par Domingos Simoes Pereira, soutient que des fraudes ont été commises et conteste la validité des procès-verbaux. Elle a réclamé une vérification, mais pas un nouveau comptage des voix, ce que refuse la commission électorale qui dit avoir terminé son travail. La CEDEAO estime que le second tour s'est déroulé normalement et dans des conditions satisfaisantes. Elle dit recommander à titre exceptionnel que la commission électorale procède à cette vérification demandée par la Cour suprême sous son égide et en présence des représentants des deux candidats. La Guinée-Bissau est plongée dans des crises politiques à répétition depuis plusieurs années et ses dernières élections devaient aider à revenir à la normale.
Le Sénégal est à nouveau secoué par une affaire de mauvais traitement dans les écoles coraniques. Un élève est mort dans Zondara, donc c'est ces écoles coraniques. Fallou Diop, âgé d'une dizaine d'années, est décédé dimanche dans un village de la région de Louga, dans le nord-ouest du pays. Il avait subi une correction infligée par un jeune homme chargé de surveiller les élèves en l'absence du maître coranique qui lui reprochait de n'avoir pas assimilé ses leçons du jour, selon des sources policières. L'auteur est le responsable de l'école coranique ont été inculpés pour meurtre. Au Nigeria, 5 enfants, dont 2 filles kamikazes, sont morts dans 2 attentats distincts près de Maiduguri, dans le nord-est du pays, où des enfants sont souvent utilisés par les djihadistes pour des missions suicides. Nathalie Barche.
L'un des attentats a eu lieu jeudi soir dans une école coranique en plein air à Mounadalti, dans l'état de Borno. La fille s'est approchée du groupe de garçons et sa charge a explosé, tuant 3 d'entre eux et en blessant 4 autres. Un peu plus tôt, une autre fille du même âge a été tuée dans l'explosion de sa charge après avoir fait irruption dans une maison proche, blessant 1 personne. Les 2 enfants kamikazes sont arrivés ensemble sur place avant de se séparer. Dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram utilise des filles pour des missions suicides, les garçons étant généralement enrôlés pour le combat. La charge explosive sur les enfants sont parfois déclenchées à l'aide d'un détonateur ou d'une télécommande à distance.
Les députés mauritaniens ont mis en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur les 11 années au pouvoir de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. La commission d'enquête parlementaire bénéficie du soutien du parti au pouvoir, l'Union pour la République, fondée en 2009 par l'ancien chef de l'État. Mais l'UFR est à présent entièrement contrôlée par son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la tête de cet État depuis donc le mois d'août. L'ex-président a récemment dénoncé sa mise à l'écart. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé ce vendredi un nouvel assouplissement de l'embargo sur les armes imposé à la Centrafrique. Les négociations ont donné lieu à une vive tension entre la France et la Russie, selon des diplomates. Les États-Unis ont nommé un émissaire pour la paix au Soudan du Sud au moment où les belligérants peinent à s'accorder sur un gouvernement d'union. Stuart Symington est chargé de soutenir le processus de paix et une transition politique couronnée de succès au Soudan du Sud, a déclaré dans un communiqué le département d'État américain. Le Conseil de l'Europe appelle l'Italie à suspendre d'urgence sa coopération dans le cadre d'un accord controversé avec les gardes-côtes libyens. Le Conseil estime que cet accord débouche sur une hausse des retours de migrants en Libye, pourtant déchirée par un conflit. De nombreuses preuves pointent de graves violations des droits de l'homme envers les migrants et les demandeurs d'asile en Libye, où le conflit armé aggrave actuellement la situation en matière de sécurité, selon la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les sénateurs chargés de juger Donald Trump se prononcent à l'instant sur une motion démocrate qui vise à autoriser la convocation de témoins et l'admission de nouvelles preuves. Pour obtenir gain de cause, le camp démocrate, qui compte 47 élus, doit rallier 4 sénateurs républicains. Le point avec Eric Menerekiza.
Donald Trump a toutes les chances d'être déclaré non coupable d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice. Selon ses proches, il espère être blanchi avant de prononcer le traditionnel discours de l'État de l'Union mardi soir devant le Congrès. Un acquittement de Donald Trump ne voudra rien dire si les sénateurs refusent de convoquer de nouveaux témoins à son procès, a déclaré le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. La Constitution américaine impose en effet une majorité des 2/3, soit 67 sénateurs sur 100, pour destituer un président, un seuil a priori inatteignable pour le camp démocrate qui compte 47 voix à la Chambre haute du Congrès. Les démocrates soumettront cet après-midi une motion pour obtenir le droit de convoquer des témoins. S'ils obtiennent les 51 voix nécessaires, ce qui implique de rallier 4 élus républicains à leur cause, le procès va se prolonger. Si le vote s'achève sur une égalité 50-50, les démocrates ont prévu de demander au chef de la Cour suprême, John Roberts, qui préside le procès, d'apporter sa voix, un scénario moins envisageable. Les 100 sénateurs pourraient alors passer très rapidement au vote sur le verdict, peut-être ce soir même ou demain samedi.
La sénatrice républicaine modérée Lisa Murkowski a fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas la convocation de témoins au procès de Donald Trump avant un vote crucial donc ce soir. La Commission européenne a annoncé une subvention de 10 millions d'euros pour soutenir la recherche sur le nouveau coronavirus qui a émergé en Chine et pour lequel aucune thérapie n'a encore fait ses preuves. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier que l'épidémie était devenue une urgence de santé publique de portée internationale. Le principal responsable politique de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de la maladie, a avoué se reprocher une réaction trop lente face au coronavirus. Le 23 janvier, les autorités chinoises ont mis en quarantaine Wuhan et d'autres agglomérations de la province voisine de Hubei. Ma Guoqiang, responsable local du Parti communiste, estime qu'il aurait dû prendre la mesure 10 jours plus tôt. Le nouveau coronavirus a fait à ce stade 213 morts et le nombre de personnes contaminées approche les 10 000 en Chine. Une centaine de cas ont également été déclarés dans près de 20 pays, y compris en Europe et en Amérique du Nord. Bruxelles a d'ailleurs lancé un appel d'urgence pour des projets de recherche sur l'épidémie. Plusieurs pistes de traitement sont à l'étude contre le coronavirus, pour lequel aucune thérapie n'a encore fait ses preuves.
Après plus de 3 ans de déchirement, le Royaume-Uni devient ce vendredi le premier pays à quitter l'Union européenne, mettant fin à 47 ans de compagnonnage. Après avoir été repoussé 3 fois, le Brexit est prévu à 23h GMT, 3 ans et demi après avoir été approuvé par 52% des Britanniques au référendum de 2016. Nous y reviendrons en partie magazine. La première prière hebdomadaire sur l'esplanade des mosquées depuis l'annonce du projet de Donald Trump pour un règlement du conflit au Moyen-Orient s'est déroulée dans un calme relatif malgré le rejet de ce plan par les Palestiniens. Peu après la prière de l'aube, la police a dispersé des Palestiniens scandant des slogans pro-arabes sur l'esplanade des mosquées, aussi appelé Mont du Temple par les Juifs. La police a déployé des renforts dans plusieurs secteurs de la ville sainte. Et puis en Irak, l'ayatollah Ali Sistani, le chef des chiites du pays, appelle à la tenue d'élections législatives le plus tôt possible pour tenter de sortir de la crise politique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Eki Abadou pour la Minute Éco.
Le Royaume-Uni est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Le Brexit prévu ce soir, 23h temps universel, va mettre fin à 47 ans de vie commune avec l'Union européenne. Londres s'est lancé voilà 2 ans dans une offensive tout azimut en direction de l'Afrique qui a abouti à un récent sommet Royaume-Uni-Afrique avec la participation de plus d'une vingtaine de pays africains. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a inauguré jeudi à Koudougou une usine d'égrenage de coton biologique présentée comme la première en Afrique de l'Ouest en marge du Salon international du coton et du textile. Cette usine pourra transformer 130 tonnes de coton graines en fibres par jour et permettre l'automisation des femmes qui représentent 58% des employés de ce secteur. Le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale annonce l'organisation d'une table ronde à Brazzaville pour développer le secteur des routes et des transports. Les projets majeurs d'infrastructures dans la région concernent la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Dans son rapport 2020 sur les perspectives économiques en Afrique, la Banque africaine de développement se montre relativement optimiste pour le continent. La BAD a dû revoir cependant à la baisse le taux de croissance dont elle espérait l'an dernier, qu'il atteindrait 4% en 2019.
À présent, la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'île Maurice et la Tunisie sanctionnées par la CAF.
Oui, comme il fallait s'y attendre, la Tunisie et l'île Maurice ont écopé de diverses sanctions infligées par la CAF, dont le jury disciplinaire s'est réuni à La Youn. L'île Maurice, qui s'est retirée en pleine canne futsal, écope d'une suspension des 2 prochaines éditions de la compétition et devra aussi s'acquitter d'une amende de 75 000 dollars. Pour sa part, la Tunisie a décliné sa participation au CHAN 2020 malgré sa qualification. Elle est suspendue pour le CHAN 2022 et doit payer une amende de 50 000 dollars. Vainqueur de la compétition en 2014, la Libye, initialement non qualifiée, remplace la Tunisie. Le tirage au sort de la compétition est prévu le 17 février à Yaoundé. Le CHAN aura lieu au Cameroun du 4 au 25 avril dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé.
Tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF seront connus ce week-end.
Oui, notamment à l'issue des matchs du groupe B. D'un côté, Al-Hilal, 9 points, face à Al-Ahli à Omdurman. Et de l'autre, l'étoile du Sahel, avec ses 9 points, fait face au maillon faible, le FC Platinum, 1 point. En cas de victoire de l'étoile du Sahel, le perdant du match entre les Soudanais d'Al-Hilal et les Égyptiens d'Al-Ahli sera éliminé. Pour l'heure, les qualifiés pour les quarts de finale sont Mamelodi Sundowns, le Wydad de Casablanca, le tout-puissant Mazembe, le Zamalek, le Raja Casablanca et l'Espérance de Tunis.
La FIFA constate un écart accru entre l'Europe et le reste du monde.
C'est le constat fait par Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA, à l'occasion du lancement d'un programme de développement des talents. Ce programme doit permettre aux fédérations membres de mettre en place des plans de détection pour réduire les écarts au sommet du football mondial. L'Europe monopolise les victoires en Coupe du Monde masculine depuis le dernier titre du Brésil en 2002. Côté club, la dernière équipe non européenne sacrée championne du monde, les Corinthians, l'a été en 2012. Les différences de revenus sont aussi abyssales. Selon le classement annuel du cabinet d'Elliott, les 30 clubs les plus riches du monde sont tous affiliés à l'UEFA, la Confédération européenne.
NBA, les Clippers perdent, mais honorent Bryant au Staples Center.
Et oui, en attendant le retour au jeu des Lakers ce soir contre Portland, l'émotion a été vive au Staples Center. Les Clippers, battus par Sacramento 124 à 103, ont honoré la mémoire de la légende du basket mort dimanche dans un crash d'hélicoptère. Ils se sont échauffés avec des t-shirts portant ses numéros 8 et 24 et une vidéo narrée par Paul George a été diffusée dans la maison que Kobe Bryant a construite. Le duel des outsiders a tourné en faveur des Nuggets, vainqueur à domicile du Jazz 106 à 100. Les Raptors de Toronto, eux, se sont imposés 115-109 face à Cleveland. Boston s'est défait de Golden State 119-104. Atlanta a pris le dessus sur Philadelphie 127-117. Charlotte s'est inclinée devant Washington 121-107.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Procès du président Donald Trump au Sénat. Un sénateur républicain a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'appeler des témoins. Les démocrates ont déjà prouvé leurs arguments contre le président, mais l'infraction bien qu'inappropriée ne mérite pas une mise en accusation, a-t-il fait savoir, ce qui pourrait constituer un tournant dans ce procès. Le point avec Lionel Gaïma.
Le sénateur Lamar Alexander a déclaré dans un communiqué jeudi: « Il n'y a pas besoin de plus de preuves pour établir quelque chose qui a déjà été prouvé et qui ne respecte pas la haute barre fixée par la Constitution des États-Unis pour une mise en accusation. » Alexander a ajouté que la Constitution ne donne pas au Sénat le pouvoir de destituer le président et d'ôter son nom du bulletin de vote cette année simplement pour des actions inappropriées. Quatre sénateurs républicains doivent ajouter leur voix à 47 démocrates et indépendants au Sénat pour faire admettre l'audition des témoins. Si ce vote se termine par une égalité de voix 50-50, le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, président du tribunal, pourrait trancher si Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, décide au dernier moment de changer les règles, ce qui est très peu probable. Donald Trump a toujours tiré à boulet rouge sur ce procès.
Situation très partisane, une honte, franchement une honte pour notre pays.
Les sénateurs ont bouclé 16 heures de questions au procureur et à la défense du président, Patrick Feldman, avocat de la Maison-Blanche.
Ce n'est pas de l'ingérence dans la campagne que des informations crédibles sur des actes répréhensibles soient révélées s'il s'agit d'informations crédibles.
Adam Schiff, le chef des procureurs démocrates, n'est pas de cet avis.
Les défenseurs du président font valoir qu'un président des États-Unis peut essentiellement faire tout ce qu'il veut pour obtenir sa réélection, aussi corrompu soit-il, s'il pense que sa réélection est dans l'intérêt national. C'est l'argument le plus absurde et le plus dangereux qui puisse être avancé.
La phase des questions et réponses n'a pas beaucoup fait varier les positions sur les témoins avant le vote crucial de ce vendredi. Les républicains affirment que la convocation des témoins peut faire traîner ce procès à longueur et serait une distraction. La présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, a averti que sans témoins, ce procès ne serait pas considéré comme légitime. Après le vote des témoins ce vendredi, la majorité républicaine du Sénat veut aller rapidement vers un vote final et acquitter le président Donald Trump. Le pays, qui était déjà divisé, en sera encore plus que polarisé alors que tout le monde a les yeux rivés vers la présidentielle de novembre. Le premier caucus démocrate commence lundi dans l'Iowa, où Donald Trump a battu campagne hier.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
On est le 31 juillet et c'est le divorce officiel entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le drapeau britannique va flotter une dernière fois sur les institutions européennes à quelques heures de ce départ historique du Royaume-Uni, premier pays à quitter l'Union après 47 ans. Claire Morin-Jubourg a rejoint le directeur de l'Observatoire du Brexit, Aurélien Antoine.
C'est un jour extrêmement important. C'est la première fois qu'un État membre s'en va. Et c'est marqué d'une certaine manière d'une pierre un peu noire, puisque c'est un échec de l'Union. Et puis en tant que personne assez pas mal attachée au Royaume-Uni, c'est vrai que c'est un événement important et émouvant en quelque sorte.
Quelles vont être les premières conséquences pour vous maintenant ?
Alors les premières conséquences, c'est d'abord le départ d'un État membre qui est particulièrement important économiquement, diplomatiquement, au sein de l'Union européenne. C'était un poids lourd qui a beaucoup influencé l'évolution de l'Union. Donc ça, c'est déjà un changement majeur pour nous. Et puis, en revanche, en tant que citoyen, pour aller au Royaume-Uni ou pour les entreprises, là, il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour avoir les effets concrets du Brexit.
À quoi va ressembler cette nouvelle Union européenne, donc après ce Brexit ?
De deux choses. L'une, ou bien elle saisit cette opportunité peut-être pour réfléchir à son destin, en particulier son destin politique, de comprendre qu'une perspective purement économique et plutôt très libérale nécessite d'être un peu réfléchie et de relancer un peu le processus européen, comme on a pu le connaître à d'autres étapes, à d'autres périodes historiques. Ou bien, effectivement, elle n'en tire pas les conséquences et malheureusement, on peut craindre que le projet européen se limite de plus en plus à une vaste zone de libre-échange. L'avenir nous le dira, évidemment, je souhaite la première solution.
Avez-vous été surpris par l'attitude des États-Unis et Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui a déclaré « nous voulons faire passer le Royaume-Uni en tête de liste »
Écoutez, pour l'instant, on est surtout sur des proclamations dans un langage très trumpien qui consiste à dire que tout va être extraordinaire, que c'est formidable, on est ravis. Mais passé ce cap-là, on a quand même peu d'éléments concrets qui nous permettent de dire vers quoi s'oriente le futur partenariat entre les Britanniques et les Américains. Il faudra de toute façon attendre ce que va donner la négociation entre Britanniques et Européens avant d'envisager de très grands chantiers comme un accord commercial avec les États-Unis, même si les négociations vont aussi commencer sur ce front-là pour les Britanniques.
C'était Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
De plus en plus de jeunes centrafricains se rendent aux États-Unis pour des formations initiées par l'ambassade américaine à Bangui. Ces programmes connaissent un franc succès en offrant un meilleur accès à des formations professionnelles de qualité, ce qui est indispensable pour ce pays pauvre et en crise. Sandrine Appy nous en dit plus.
L'équipe de l'ambassade américaine en Centrafrique travaille régulièrement sur la sélection de jeunes candidats appelés à se rendre aux États-Unis pour des programmes d'échange. Au total, 4 sont proposés.
Quatre grands programmes d'échange américains sont proposés par l'ambassade des États-Unis en Centrafrique. Le plus célèbre est le Mandela Washington Fellowship, ouvert aux jeunes de 25 à 35 ans pour des formations en entrepreneuriat et leadership. Il y a aussi le programme IVLP qui a été instauré depuis 1940. Il cible les professionnels afin de les aider à avoir une expérience supplémentaire dans leur domaine d'activité lors de leur séjour aux États-Unis. Nous avons aussi le Pan-African Youth Leadership Program qui permet à de jeunes lycéens de se rendre aux États-Unis afin d'acquérir des connaissances en matière de leadership et les inciter à s'intégrer dans les activités communautaires. Enfin, le Humphrey Leadership Program, qui vise les universitaires et leur donne l'opportunité d'être formés dans une université américaine pour une année.
À l'issue de ces formations, les jeunes candidats reviennent dans leur pays d'origine avec des connaissances qui leur permettent de mieux structurer leurs projets et d'exercer des activités qui impactent positivement leur communauté.
J'ai participé à la section qu'on appelle Business Entrepreneurship. Et dans ce programme, j'ai pris un mois et demi où j'ai appris à comment faire le business, comment faire le marketing d'une manière globale. J'étais allé avec un projet qui s'appelle Mandatech, qui est une bibliothèque virtuelle.
Quand je suis rentrée de ces formations-là, ça m'a permis déjà de redéfinir l'orientation de l'entreprise, que je dirige, travailler sur des projets plus impactants. Par exemple, aujourd'hui, je travaille sur deux projets sur le charbon bio, charbon fait avec les déchets ménagers, et également un projet sur du manioc amélioré avec le moringa.
L'ambassade des États-Unis en Centrafrique accompagne à travers des rencontres ponctuelles l'ensemble du réseau des alumni, ce qui leur permet de mesurer l'impact de ces programmes. Environ 20 000 jeunes africains uniquement en ce qui concerne le programme YALI sont comptabilisés sur le continent et chaque année, environ 1 000 candidats sont sélectionnés. Sandrine Appy pour VOA Afrique, Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
En Mauritanie, les artistes plasticiens peinent à se faire accepter dans une société conservatrice qui rejette le figuratif. Mais le collectif des artistes mauritaniens persiste. Il va même transmettre l'art aux enfants lors du Festival Libre Art de cette année. À Nouakchott, le reportage de Mohamed Diop.
Nous sommes à la 5e édition du Festival Libre Art. Mais pour les enfants, c'est la première participation. Ils sont âgés de 6 à 13 ans à prendre part aux ateliers des peintures et des sculptures.
Je fais avec les enfants, c'est les visages de Picasso revisités à notre manière. C'est les visages asymétriques, plein de couleurs, plein d'expressions. Et voilà, on a revisité ça et j'ai laissé cours aux enfants de faire ce qu'ils veulent comme choix de couleur, comme collage. Et c'est à base de carton, donc on a recyclé un peu ça.
Les enfants sont également initiés à la caricature. Mais il a fallu 2 jours et surtout beaucoup de patience pour que les enfants produisent leurs premières œuvres, dont ce cheval. Fait d'objets recyclés.
Nous sommes partis au bord de l'océan. On a ramassé des déchets avec les enfants. Nous avons réalisé ensemble cette sculpture que vous voyez derrière vous.
Transmettre les arts aux enfants, c'est donner seconde vie à la matière, l'objectif même du collectif des artistes mauritaniens.
L'art n'est pas enseigné à l'école. Et si les artistes ne font pas d'efforts pour enseigner les arts aux enfants, je pense qu'il n'y aura pas d'élèves.
Après, le plus dur pour ces enfants, disons les futurs artistes, ce sera de poursuivre le combat des aînés qui luttent pour faire évoluer les mentalités dans une société jusque-là réticente aux arts plastiques.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, on se quitte en musique pour cette édition du Monde Aujourd'hui, à la mise en onde de Cheikh Kero, présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le Monde Aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellent week-end à tous.
world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus.
Bienvenue à bord